Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Bienvenue dans l'équipe est sauvage avec Mathieu Noël, entouré de sa complice Eva Roch, des journalistes de la rédaction d'Europe 1 qui se sont engagés, vous le savez, dans une compétition gentiment féroce, mais dans une ambiance toujours joyeuse et détendue. Et Mathieu Noël s'entoure, vous le savez, chaque après-midi d'un invité d'honneur. Alors le week-end, on vous propose de revivre les moments essentiels de la semaine passée et ils sont venus nous parler de leur actu et distribuer les points. L'écrivain Éric Orsenna, le romancier et scénariste David Fuenquinos, le chef cuisinier Olivier Rollinger, les comédiens Kadmerad, Sabrina Ouazani ou encore Sandrine Bonner, avec laquelle on a débuté la semaine. Elle a ainsi pu découvrir le sujet de Mathieu Charrier.
Sourire avenant, physique rigolo, Mathieu Charrier, c'est un
physique rigolo.
Non mais, Mathieu Noël.
Oh, c'est lundi, Matounet, on se connaît bien. Mathieu Charrier s'est peu à peu spécialisé dans le cinéma. Sa cinquième passion après la tartiflette, le pâté en croûte, le tourneau de Rossini et les pâtes aux langoustines.
Tu les plonges dans le courbouillon, tu les manges direct.
Explosion de saveur.
Et oui, en 2019.
C'est vrai, mais c'est dans l'angoustine fraîche, il faut préciser. Encore vivante.
C'est reparti.
Vous voyez, Sandrine, je vis avec des fous. Et peut-être que je le deviens moi-même. Mathieu, aujourd'hui, vous nous parlez d'une technique mythique du cinéma qu'Axel n'a pas compris, visiblement, vos explications de tout à l'heure. Le plan séquence.
Alors, Axel, c'est quoi un plan séquence?
Bah oui, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un plan séquence. Quand vous regardez doctement, mais on ne sait pas de quoi vous parlez.
Quand vous regardez un film, d'accord, vous voyez à l'image ce qu'on appelle des plans qui se succèdent. C'est-à-dire, par exemple, il va y avoir un gros plan sur vous, puis on va passer sur Mathieu Noël. Puis entre tout ça, il y a des coupes, c'est-à-dire que vous ne voyez pas tout ce qui se passe. Bon, un unique plan séquence, ça va être que la caméra ne s'arrête pas de filmer. Donc si je vous filme vous, puis Mathieu, puis Sandrine, bah, la caméra va suivre le mouvement. Comme ça, on va sortir par exemple du studio, bah, on va suivre Mathieu en sortant du studio.
Ça serait intéressant comme film.
Jamais couper la caméra.
Eh ben voilà, j'ai compris. Merci.
Vous avez compris.
Mais alors, attendez, là, si le film dure deux heures, on ne va pas tourner deux heures en une seule prise.
Non, c'est impossible, d'autant que c'est un film en 1917 sur deux soldats pendant la guerre des tranchées. Donc évidemment, il y a des centaines et des milliers de figurants, il y a des explosions dans tous les sens. Donc vous ne pouvez pas pendant deux heures suivre des soldats à travers différents paysages, différentes explosions, etc. Mais quand même, la prouesse, Sam Mendes, il refuse de dire évidemment combien il y a de vrais plans dans le film.
Oh, le coquinou.
Mais quand même, il explique, et ça se voit à l'écran d'ailleurs, que c'est à chaque fois des plans de 5, 6, 7 minutes.
C'est très
ce qui
long.
Est déjà énorme.
Qui est déjà énormissime, surtout dans un film comme ça, où il se passe plein de choses.
Et alors, comment c'est assemblé? Comment il a fait ce puzzle?
Alors, finalement,
sans qu'on le voit.
Finalement, il a, entre guillemets, rien inventé. Si vous remontez dans l'histoire du plan séquence, il y a le premier film, on va dire, présenté comme un seul unique plan séquence, ouais. C'était La Corde d'Hitchcock, qui était dans les années 40.
Ah oui, donc ça remonte.
Ça remonte. Hitchcock, ce qu'il faisait, il avait fabriquer des bobines exprès qui pouvaient filmer pendant 15 minutes, parce qu'à l'époque, c'était des bobines de quelques minutes. Donc, il avait fabriqué des bobines qui pouvaient filmer pendant 15 minutes, mais évidemment, pour que le film dure une heure et demie, il fallait quand même couper entre différentes bobines. Donc, lui, à l'époque, ce qu'il faisait, c'est qu'il arrivait, par exemple, sur le dos d'un personnage qui avait une veste noire. Hop, gros plan sur le dos, vous aviez une espèce de fond du haut noir, et on passait sur une autre bobine, donc c'était quasi invisible. Sam Mendes, il fait presque la même chose. Alors, évidemment, avec les moyens d'aujourd'hui, vous le voyez un peu moins, mais si vous regardez bien...
On le voit même pas du tout, je crois.
Hein, ben, si vous regardez bien pendant le film, vous allez suivre des personnages, des actions, etc. À un moment donné, par exemple, vous allez passer devant un poteau. Bon, ben, ce poteau c'est le moment où ça a été coupé. Ouais. Ou à un moment donné, vous allez avoir une explosion, vous allez avoir de la fumée qui va envahir l'écran. Hop, c'est le moment où ça a été coupé.
C'est génial.
Donc voilà, vous avez des petits moments comme ça où vous réussissez à couper le film.
Notre autre expert ciné a quelque chose à dire. Axel,
mon cher Axel, je vous écoute.
Non, j'ai une question à poser parce que vous êtes l'expert. Si c'est un plan séquence qui n'a pas de coupure pendant deux heures, ce qui veut donc dire qu'en fait, l'action se passe pendant deux heures.
Exactement.
Donc tout se passe le même jour, ça commence à 8h et ça se termine à 10h.
Exactement. L'action, là, en l'occurrence, vous suivez deux soldats qui sont chargés par leur dirigeant d'aller porter un message à d'autres troupes pour leur dire de finalement pas mener une attaque, ce qui permettrait d'économiser, enfin de sauver des centaines de vies. Et donc vous allez les suivre comme ça sur le champ de bataille pendant deux heures, effectivement. Ça n'est pas coupé.
C'est quoi l'intérêt cinématographique du plan séquence?
L'intérêt dans un film comme celui-là, c'est que je trouve qu'on est presque au-delà de l'expérience cinéma. C'est-à-dire que vous êtes tellement impliqué dans la bataille avec ces soldats, vous les suivez, vous êtes physiquement avec eux, vous suivez la caméra, à un moment ils passent dans des tranchées, vous êtes sous terre, il y a des explosions, donc vous avez vraiment, c'est une expérience immersive quoi.
Et c'est pas un peu long, deux heures
Alors très sincèrement, franchement vous les voyez pas passer.
Vous savez quoi, pour une fois j'ai tout compris ce que vous avez raconté, Mathieu Charrier. Sandrine Bonner, vous êtes sensible à l'aspect technique comme ça du cinéma, genre un plan, c'est un film avec un plan séquence, ça peut vous bluffer ou vous vous dites ce qui vaut c'est la prestation des acteurs et le plan séquence en soi n'apporte pas
Effectivement, moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est quand il y a de la mise en scène et une caméra qui coupe pas. Faut préciser que quand on dit plan séquence, égale surtout brillante mise en scène. En général, c'est ça que ça veut dire.
Ce qu'il faut préciser, c'est que Sam Mendes, bon, qui est un grand réalisateur qui a réalisé des James Bond, etc. Il vient surtout du théâtre. Avant, il avait réalisé des dizaines de théâtre, mise en scène, des dizaines de pièces de théâtre. Et il explique qu'en fait, pour ça, il a repris le principe du théâtre. C'est-à-dire qu'il a fait des dizaines d'heures de répétition avec tous les comédiens, etc., en leur disant toi, tu passes là, tu fais ça, ça explose à tel moment, etc. Et donc, au moment où il disait bon, allez, maintenant, c'est bon, je lance.
T'imagines, t'as un con qui fait
c'est la catastrophe. S'il y en a un qui fait mal son travail, alors c'est le boxon, faut tout recommencer, c'est infernal.
Et c'est vraiment la technique du théâtre appliquée au cinéma.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Avec Mathieu Noël entouré d'Eva Roch et des journalistes d'Europe 1 prêts à batailler pour nous offrir leurs meilleures chroniques et surtout susciter l'intérêt des invités. Alors vendredi, c'est un duo d'acteurs qui est venu nous rendre visite et participer à cette équipe est sauvage à l'occasion de la sortie du film Une belle équipe. Cadmerade et Sabrina Ouazani, c'était lors de l'émission en public.
Public surexcité, mais pas autant que nos invités du jour, surtout Louis. C'est simple, quand je l'ai appelé pour lui demander s'il serait d'accord de participer à notre émission, il m'a dit
« Je suis sûr qu'on va passer une super soirée. Je suis déjà tout dur. »
Bonjour, Cadmerade.
C'est pas moi.
C'était vous avant.
Non, c'est pas moi, là, c'est moi, là.
Mercredi prochain, vous serez à l'affiche d'Une belle équipe, une comédie qui va nous aider à surmonter le blues du mois de janvier. À vos côtés, une jeune femme ravissante que vous connaissez bien.
Non, je l'ai ramassée bourrée dans un bar hier soir. Elle dansait nue avec des lesbiennes.
Mais non, Cad, enfin, elle joue avec vous dans Une belle équipe. C'est Sabrina Ouazani. Bonjour et bienvenue, Sabrina. Une belle équipe comédie chorale dans laquelle Cad vous incarnez l'entraîneur d'une petite équipe de foot amateur qui, suite à une bagarre, va se voir suspendu jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, les joueurs qui la composent germent alors l'idée de remplacer tous les mecs de l'équipe par des filles. On a eu la chance de voir le film. Ma première question est simple. Moi qui ai un peu taquiné le cuir, comme on dit. Sabrina, vous êtes doublée lorsque vous êtes balle au pied ou vous jouez vraiment au foot comme ça?
Mais de quoi parlez-vous, voyons? Mais pourquoi vous gâchez la magie du cinéma?
Alors je ne gâche pas la magie du cinéma. Pas. Vous jouez quasiment comme Mbappé.
L'équipe est sauvage.
C'est donc, vous l'avez compris, le tonitruant tandem Cadmerade Sabrina Ouazani qui nous accompagne cet après-midi. Pourquoi tonitruant? Ben, simplement parce que Sabrina, quand on a un rire comme ça, c'est-à-dire un rire qui, en termes de DB, équivaut à un concert de klaxon un soir de Victoire des Bleus en Coupe du Monde, le mot tonitruant est le bon. C'est un rire qu'on a beaucoup entendu sur le tournage d'Une belle équipe, ça, Cad.
Oh, oui, on a beaucoup entendu. Mais c'est un rire qui... En plus, moi, je sais comment la faire rire maintenant, ça y est. C'est une technique. Alors, j'imite Christophe Maé.
Et ça ressemble à quoi, Cadmerade qui imite
quand
Christophe...
ça tâche. Attends. Quand ça tâche et quand ça passionne.
Voilà. Un petit Christophe Maïté et on est parti. Et donc, mais sur le tournage, c'est très plaisant parce que l'ambiance était vraiment très très bonne. Voilà. Grâce notamment à Sabrina, mais aux autres filles aussi.
Et ça se ressent dans le film. On avait Isabelle Nanty avec nous l'autre jour qui nous disait on voit à l'écran quand sur le tournage d'un film, ça s'est bien passé.
Normalement.
Et là, on a l'impression vraiment que vous avez bien rigolé.
Et on ne voit pas quand ça s'est mal passé, par contre.
Ah, ça vous pensez?
Ah bah oui, bah je crois.
Vous avez des exemples?
Non. Si, Titanic. Moi, j'ai joué un des barman là, quand j'étais au troisième étage, là, j'étais avec les gueux, moi. Tu m'as pas revu dans Titanic? Oh là, ça y est, Sabrina, on l'a perdu.
Sabrina, vous aviez fait un film précédemment avec Édouard Baird. Petite question, qui est le plus sympa, Édouard Baird ou Cadmerade?
Oh, les deux sont merveilleux.
Ouais. Oh, la vache.
Ah la question.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Profitons de la présence parmi nous du sulfureux tandem Cadmerade Sabrina Ouazani. Sabrina, vous étiez fan de Cad avant de bosser avec lui. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure.
Oui.
Ah bon?
Oh, ça y est, il veut de la flatterie.
Ah ouais. Bon, totalement fan. Et d'ailleurs, j'avais hâte et j'étais en même temps hyper impressionnée de tourner avec lui dans Une belle équipe. Et j'étais trop contente de découvrir aussi qu'humainement, c'était une merveilleuse personne.
Il y a
personne,
deux
incroyable.
Effets qui se coulent avec Cad. C'est d'abord, on l'aime bien parce qu'il est fort et qu'il nous fait rire. Et puis deux, quand on a la chance comme
de
nous,
découvrir
de
sa générosité, voilà. Effectivement.
Ça y est, c'est ma fête.
Il faut le dire au public. Enfin, pour une fois que je dis pas
c'est
une lâcherie.
Hein,
qui est pour vous Cadmerade? On est allé vous poser la question. Voici Cad. Non pas un micro-trottoir, toujours monté pour faire semblant que tout le monde kiffe l'invité. Non, voici notre micro-trottrash. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on a tout laissé. Et tu vas pas être déçu.
Oh merde.
C'est un acteur très comique, très comique. très beau volume capillaire sur le côté.
Tout le monde se rappelle de son personnage du guitariste qui joue de la guitare avec la bite.
Ah, il était avec, comment il s'appelle l'autre là, le...
J'aime beaucoup Cadéo.
Camerade.
Il est hautain. Il est... Ouais, toi, il a l'air hyper sympa en plus. Non, il fait hyper sympathique.
Je l'avais vu en Bentley du côté d'Arcachon une fois.
Je pense que c'est un vrai acteur, mais qu'on l'a beaucoup trop mis dans des rôles de comique. Il est sympa, c'est un bon bonhomme.
Il a un charme voilà, dans les yeux, dans la démarche. Voilà.
Il est surtout chauve.
Oui, il est assez chauve, c'est vrai.
Il doit être bon vivant.
Il peut faire autre chose, il a une part d'ombre en lui qui peut faire autre chose.
Je pense que pour avoir autant de réussite derrière, il y a quelqu'un qui a de la poigne.
Qui joue de la guitare avec la bite.
il a une part d'ombre en lui, il pourrait faire autre chose. C'est vrai, ouais. Mais il y a certains qui sont restés encore à Cadéo. Justement, ce regard que les gens posent sur vous, Kat, dans la rue, c'est vrai que tout à l'heure, vous étiez sur la blague quand vous nous disiez, on vous rappelle toujours Manitas de l'habitas. Mais il y a un truc qui peut vous agacer quand même, c'est que le César que vous avez eu, vous l'avez eu pour un rôle dramatique, et vous estimez que c'est dommage qu'il n'y ait pas de César pour des rôles comiques qui sont parfois plus difficiles en termes de performance pour un comédien qu'un rôle dramatique. Finalement.
Oui, mais alors ça, c'est, on ressasse toujours la même chose. Mais Peter Sellers, par exemple, vous voyez, qui n'a jamais eu d'Oscar, et qui est quand même l'acteur de La Panthère Rose et de The Party. Je ne sais pas si vous imaginez pas le travail que ça représente. Ou même, pour être plus français, de Louis de Funès. Ce
bien
que faisait Louis de Funès, on n'imagine pas. Alors, on a toujours l'impression qu'un clown, c'est un art un peu mineur, alors que franchement, la comédie, le burlesque, c'est quelque chose qui se travaille autant que le dramatique ou l'intense ou ce que vous voulez. Donc après, bon... peut-être un jour il y aura. Par exemple, aux États-Unis, ils font des. Par exemple, les Golden Globes, il y a maintenant acteurs dramatiques, acteurs de comédie, etc. Ouais. Peut-être qu'on y viendra aussi. Parce que c'est vrai
comment
que...
ça se fait qu'on n'y soit pas encore venu? Moi, ça me sidère, surtout. Enfin, au César, c'est pas très compliqué.
Il n'y avait pas de bus ou il n'y avait pas de métro. Et hop là. Et pas de d'actualité.
Une bande d'actu en plus.
On n'est pas venu, c'est parce qu'il n'y avait pas de transport. Non, non, mais. Mais ça va viendre, Mathieu.
Ça va viendre.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipée sauvage.
C'est notre rendez-vous bonne humeur de l'après-midi avec Mathieu Noël et sa bande. La compétition se poursuit à présent avec le sujet de Jérôme Lacroix en présence de l'écrivain Éric Orsenna. C'était jeudi sur Europe 1.
Aujourd'hui, une référence dans le monde de la littérature, une plume alerte qui depuis 1974 porte haut l'étendard de notre belle langue française. Vous voyez évidemment de qui je veux parler, Jérôme.
Chantal Goya.
Et non, hélas non, Chantal n'était pas disponible. C'est l'écrivain Éric Orsenna qui l'a remplacé au pied levé. Et sans atteindre les cimes stylistiques de Chantal Goya, force est d'admettre qu'il se débrouille pas mal. Votre dernier roman s'intitule « Briser en nous la mer gelée ». Enfin, je suis éberlué devant les conneries que j'ai. Il nous interroge sur notre capacité à aimer et à se re-aimer, si tant est qu'on puisse le dire. On continue d'en parler, mais l'heure est venue d'écouter notre ultime concurrent du jour, Jérôme Lacroix. Éric Orsenna, à ce stade, si vous deviez faire un premier bilan de notre émission...
Comme disait Brassens, l'âge ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con.
Merci. Eh bien, on vous écoute, Jérôme, et bonne chance.
Oui, justement, tu as parlé de chance. Vous noterez que je ne recule devant aucun défi. Oui. Celui de cet après-midi, Éric Orsenna, il sera réussi. Si bon sang, j'arrive à apprendre quelque chose sur la langue française, un académicien, vous serez d'accord.
Alors,
je vous raconte qu'un jour, j'ai foncé bille en tête pour épater la galerie, mais j'ai dû jeter l'éponge. Voilà, trois expressions dans cette phrase. Et elles nous viennent toutes du monde du sport. Je vous propose de vous raconter maintenant comment le sport a parfois façonné notre langue française. Alors, je vous parlais d'épater la galerie. Ce qui est marrant, c'est de constater qu'il y a plusieurs de ces expressions courantes qui proviennent du jeu de paume. Vous savez, l'ancêtre du tennis qu'on pratique depuis des siècles et qu'on pratique d'ailleurs encore toujours aujourd'hui. Épater la galerie.
Ah, moi, je pensais épater la galerie des glaces. Moi, je pensais.
Ben non, vous allez l'entendre. Le jeu de paume, c'était d'abord un sport extérieur. À partir du XIVe siècle, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne jouerait pas en intérieur? C'est alors qu'au bord des terrains, on a construit, donc, dans les salles, des sortes de petits couloirs sur le côté du terrain pour que s'installent les spectateurs, un peu comme une tribune. On l'a surmonté d'un toit pour protéger le public, parce que les balles, ça fuse, alors pour éviter qu'ils se les prennent dessus, on a monté des toits. Ça formait donc comme une galerie, alors quand on était fort au jeu de paume, et ben dis donc, où on épatait la galerie, voilà d'où ça vient. Il y a aussi, par exemple, rester sur le carreau, on connaît cette expression, la surface des terrains des jeux de paume, avant, et ben, elle était ornée, décorée de carreaux, alors quand un joueur, par exemple, se cassait la figure, ou alors perdait, on disait qu'il restait sur le carreau, tout
c'est
simplement.
Génial.
Alors,
je savais pas que ça venait. Vous savez tout ça, Éric Orsenna?
Je savais les galeries, le carreau, je ne savais pas.
Bon, alors, j'en ai d'autres. Citons pourquoi pas jeu de main, jeu de vilain, on connaît ça. Bah, oui. Au jeu de paume. Les plus fortunés jouaient équipés d'un gant de cuir, puis un peu plus tard d'une raquette. Mais les plus pauvres, qualifiés ici de vilains, c'est pas très beau, ils jouaient à main nue, jeu de main, jeu de vilain.
Et alors, vous nous racontez aussi l'origine de jeter l'éponge. Ça vient de la boxe.
Oui, alors cette éponge, pourquoi l'éponge? C'est celle utilisée par les entraîneurs de boxe entre chaque round pour nettoyer la sueur ou le sang, parfois, de leur poulain. Et quand le combattant n'en pouvait plus, bah, l'entraîneur jetait l'éponge sur le ring en signe d'abandon. Il abandonne, on jette l'éponge. L'expression « entrer en lice », par exemple, qu'est-ce que c'est que ces lices? On repart ici là autant des chevaliers, des combats de chevaliers. En fait, les lices étaient des barrières installées pour matérialiser les bords de l'arène dans laquelle se tenaient ces joutes. On entrait en lice, on entrait en compétition. Il y a aussi foncer bille en tête, par exemple. Alors,
ah oui,
on parle
c'est
de bille.
Quoi, oui.
Alors, en fait, c'est la boule de billard plutôt que la bille. C'était un coup spécifique au billard. C'est un coup, ça existe toujours, qui consiste à donner un coup très sec, très vif avec la canne. Donc, on part bille en tête, on part à fond. Je finis avec une dernière parce que j'ai beaucoup de tendresse pour celle-là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé très mignonne cette histoire. Elle nous vient d'un jeu d'adresse pratiqué aux alentours du 15e siècle. Je vais la faire deviner, tenez cette expression.
Ah bon,
on traçait un cercle au sol. On y mettait à l'intérieur tout un tas d'épingles, beaucoup d'épingles. Le but était de faire sortir ces épingles du cercle en les poussant, en les tirant, en jetant un caillou au milieu de cet amas d'épingles.
Oui.
C'est un peu un jeu entre le chamboultou et le mikado. Ça a donné tirer
son épingle du jeu.
Ah, ouais.
C'est
magnifique.
Voilà. Jérôme,
c'est
vous m'avez écrit plein de trucs.
Alors, c'est ça la langue française. Comprenez, c'est que c'est un trésor collectif qui a été inventé depuis 12 ou 13 siècles sur des bases de langues antérieures, et qui a été inventé par tout le monde. C'est-à-dire, c'est les brefs de comptoir, mais c'est les rois, mais c'est les poètes, mais c'est les gangsters, mais vous voyez, c'est ça qui est merveilleux. Et quand vous prenez, on me demande souvent dans l'île déserte, qu'est-ce que vous emporteriez comme livre, c'est évidemment le dictionnaire.
Oui.
Parce que le dictionnaire, c'est toutes les histoires possibles, et en même temps, chaque mot est une histoire. Deux exemples. Maintenant, pourquoi ça veut dire tout de suite? Parce que main, tenant. On tient, la main qui tient. Main qui tient.
Ah oui.
Et quand on dit hippopotame, on reprend l'origine grecque. Hippo, cheval. Potamos, le fleuve. Qu'est-ce qu'un hippopotame? C'est le cheval du fleuve. Et moi, je me souviens, on dit Philippe. Et je vais dans les classes, je leur dis, mais pourquoi tu t'appelles Philippe? Pourquoi t'as laissé ton cheval à l'entrée? Je dis, pourquoi? Quel rapport avec le cheval? Ben, Philippe, ça veut dire celui, Phil, qui aime le cheval. Phil, j'aime, comme philanthropie. Mm-hmm. Et le cheval,
et combien,
il pose. Et là,
combien voilà. De Philippe.
Donc c'est ça. Alors ils sont des gamins. Rigole. Imaginez, en CM1, CM2, il dit « Ah bon, Philippe ?» Alors après, ils reviennent, le prof me dit « Tu sais, il cherche toujours son cheval. » Donc vous voyez, c'est ça. C'est, il faut la rendre vivante. Elle est vivante. C'est pas un truc n'importe quoi. Vous voyez, c'est, si vous prenez du soin, vous retrouvez énormément de plaisir. C'est l'indifférence qui tue. Vous voyez, c'est ça. C'est pas la curiosité qui en vient un défaut. Le pire, c'est l'indifférence.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Avec Mathieu Noël et sa complice, Eva Rock, bien sûr, à chaque jour. Un invité d'honneur, et mardi, c'était le romancier dramaturge David Fuenquinos. Ses deux nouvelles pièces, 10 ans après. Pour la première, elle sera jouée à partir du 21 janvier au Théâtre de Paris. Puis l'autre pièce a pour titre « Ami », pièce qu'il a d'ailleurs coécrite avec Amanda Sterz, avec Kad Merad, pour jouer et à découvrir à partir du 3 mars au Théâtre de la Michaudière, toujours à Paris.
C'est le destin qui l'a voulu.
Ouais.
Oui, quand c'est le destin qui a voulu quelque chose, je fous bac. Puisqu'en ce jour si gai pour Europe 1 et pour notre émission, hasard émouvant du calendrier, nous recevons notre parrain. Puisque mesdames et messieurs, en juillet dernier, c'est lui qui a accepté de prendre sur son temps pour participer au pilote, l'émission zéro de notre émission. Quelle joie d'accueillir pour une vraie émission qui cette fois sera diffusée, l'auteur David Fuenquinos. Bonjour David.
Bonjour, merci et bravo.
Oh, folie dans ce studio.
C'est la remontada.
Ah, c'est la remontada. Alors quand vous avez participé à notre pilote l'été dernier, je me posais la question, maintenant vous pouvez le dire parce que c'est loin, est-ce que vous êtes sorti de là en vous disant, eh ben ils sont mal barrés les tocards?
Ouais, je me suis dit c'est mal barré quoi. Là je suis assez surpris, je dois avouer quoi.
Alors mon cher David, votre actualité est chargée avec pas moins de deux pièces à venir. On va commencer par celle qui démarre le 21 janvier au Théâtre de Paris. Alors je vous conseille d'aller voir 10 ans après, pièce que vous avez écrite, interprétée par Julien Boisselier, Mélanie Page et l'ami Bruno Solo. Difficile de résumer la pièce sans trop en dévoiler, Eva, je sais pas ce que vous en pensez.
C'est compliqué.
Disons qu'il s'agit d'un triangle amoureux et disons qu'il vaut mieux pas présenter un vieil ami à sa femme.
Et il faut surtout pas un ami écrivain.
Voilà, il y a une sorte de rivalité entre un assureur et un écrivain. Mais moi je suis assez team assureur finalement, joué par Bruno Solo. J'aime bien, l'écrivain en prend plein la tête.
Est-ce qu'il y a une part d'autobiographie dans cette pièce, le côté écrivain
Alors
un petit peu,
là,
est-ce que c'est
je ne sais pas où on peut dénicher une part autobiographique, surtout dans le rapport aux femmes dans cette pièce-là. Mais on met toujours un peu de soi dans tous les personnages. mais ils sont quand même très très barrés et j'espère vraiment pas leur ressembler, quoi.
Mais pour parler très franchement, David Fuenkinos, il y a cette dichotomie dans la pièce, l'assureur d'un côté, l'écrivain de l'autre, deux statuts différents qui engendrent des réactions différentes pour, vis-à-vis des femmes en tout cas. Est-ce que dans la vie, être écrivain pour pécho des meufs en gros, très clairement, est-ce que c'est mieux?
Alors là, je m'attendais pas du tout à cette chute. Mon assureur a une très très bonne vie, je crois, à ce niveau-là. Non, je sais pas, je peux pas faire cette généralité-là. Mais c'est vrai qu'elle, elle est un peu, au début, elle est avec son assureur et puis elle rencontre le meilleur ami qui est écrivain, qui est un peu dramatique, qui cite Chateaubriand.
Bah oui, tout voilà, de suite, ça fait un peu rêver, quoi.
Et donc, c'est vrai qu'elle tombe un petit peu dans le panneau avant de se rendre compte que tout écrivain est une véritable arnaque.
C'est bien que vous le disiez. 10 ans après, sa pièce avec Mélanie Page, Bruno Solo et Julien Boisselier démarre le 21 janvier au Théâtre de Paris. David Fuenkinos est avec nous cet après-midi.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
C'est le parrain de notre émission qui nous accompagne, l'auteur David Fuenkinos. Deux de vos pièces sont montées à Paris fin janvier et en mars aussi. David, rien ne vous prédestinait finalement, quand on regarde votre bio, à être l'auteur à succès que vous êtes devenu. Apparemment, jusqu'à l'âge de 16 ans, vous n'étiez pas un si grand lecteur que ça?
Oui, j'étais pas du tout lecteur même, et puis c'est vrai que j'étais pas du tout issu d'un milieu culturel, donc je sais pas si on est prédestiné ou pas aux choses, mais j'ai été gravement malade à l'âge de 16 ans, et c'est vrai que j'ai passé de nombreux mois à l'hôpital, je me suis mis à lire, à écrire,
et
c'est vrai que ça a changé.
Guitare.
Jouer de la guitare, oui, j'étais en école de jazz après le bac, mais c'était une impasse auditive. Non, mais c'est vrai que l'écriture, je pense que tous les adolescents, voilà, où on cherche un moyen de s'exprimer, et c'est vrai que ça a été petit à petit davantage par les mots et l'écriture.
C'est ma passion, c'est ma question récurrente. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas fait votre métier actuel, c'est-à-dire écrivain? Là, la question se pose d'autant plus qu'il y a eu cette maladie que vous auriez très bien pu ne pas avoir, finalement. Vous auriez pu prendre une voie complètement différente. Est-ce que parfois, vous réfléchissez, quand vous êtes dans une séance de dédicace comme ça, tout fonctionne pour vous, est-ce que vous vous dites quel métier j'aurais pu exercer, quelle voie j'aurais prise si j'avais
c'est
pas eu cette épiphanie?
C'est difficile, hein. Mais je crois que j'aurais adoré faire Mathieu Noël. Je crois que j'aurais adoré faire une émission comme ça, voilà, me moquer de mes chroniqueurs, être une sorte de psychopathe un peu. Voilà,
une sorte de psychopathe souriant.
C'est ça. Je lisais dans une interview à Rolling Stone, on vous posait la question, vous qui aimiez la musique et vous imaginiez rocker, vous auriez aimé être quel musicien? Vous vous souvenez
ça,
de la réponse?
Non, je ne sais pas. J'ai dit une réponse.
Oui, vous avez répondu Mathieu Chédid.
Ah ouais, bah toujours, tiens, parce que ouais. Je viens de le voir en concert.
Il est toujours
c'est vrai
formidable.
Que ça doit être extraordinaire de vivre ça. Il est tellement dément quand il traverse la foule comme ça. C'est vrai que ça doit être... C'est des choses qu'on pourrait pas imaginer vivre ça.
Mais vous avez complété la réponse aussi, oui, en disant Benjamin Biolay, mais pour sa vie sexuelle.
Oui, bah il faut dire une connerie de temps en temps.
Ah, comme voilà. Vous aurez bien beaucoup être Mathieu Noël. Vous êtes aussi, aussi détraqué que moi.
J'aujourd'hui des conneries parfois, et puis je savais pas qu'Eva Rock relisait tout ça.
Alors David, on parle de vous, on vous tresse des lauriers, mais nul invité n'y échappe. L'heure est venue d'affronter votre pire cauchemar, un quiz face à Eva Rock. Aujourd'hui, rendons hommage à votre imagination foisonnante, David. Le principe est simple, je vous donne des titres de livres improbables. À vous de me dire s'ils existent vraiment ou pas. Vous êtes opposé, évidemment, Eva. Oui. C'est un vrai faux. David Fuenkinos, on commence avec vous. Mon chat va-t-il manger mes globes oculaires? Toutes les questions que les enfants se posent sur la mort. Vrai ou faux livre?
J'ai envie de dire faux, parce que c'est un peu anxiogène quand même.
Vous êtes sûr de votre réponse, David Fuenkinos?
J'hésite un peu.
Oui, mais... vous hésitez, oui. Quelle non, pourrait être votre réponse?
C'est peut-être vrai, en fait.
Quelle réponse? Vous êtes vraiment le meilleur, David.
J'ai bien fait de faire ce pilote.
Vrai livre sorti en septembre dernier, quoi, écrit par Kathleen Doughty, une Américaine qui défend des pratiques funéraires plus humaines. Vous apprendrez pourquoi les cadavres gémissent, pourquoi on change de couleur et si on peut conserver chez soi le crâne de son meilleur ami. Moi, j'ai ce projet-là pour vous, Eva. Je ne vous en ai pas encore parlé.
Vous, je vous prépare un crumble à la framboise, vous allez voir. Ça va vous,
Eva, justement.
Ça va vous calmer.
Oui. Repassage extrême, le livre officiel de ceux qui aiment repasser dans des lieux incongrus et dangereux. Vrai ou faux livre?
Non, c'est faux.
C'est faux. C'est un vrai livre sorti en 2004. Écrit par le fondateur officiel de ce sport à haut risque, qui, je cite, combine les frissons d'une activité extrême et la satisfaction d'une chemise bien repassée.
C'est-à-dire, on repasse dans des endroits improbables.
On n'a pas
oui,
un
c'est
exemple.
Le titre du livre.
Non, mais ça,
on n'a pas un exemple. Oui,
pas. On n'a pas, mais on va se procurer ce livre, on va le commander rapidement. Oui. David Fuenkinos, Dédé, le dé à coudre contre les 4 sandwichs au plâtre. Une histoire un peu surréaliste de lire à 7 à 77 ans. Vrai ou faux livre?
Oh, ça me paraît vrai, ça.
Est-ce que vous êtes sûr de votre réponse, David Fuenkinos?
Non, en fait, non.
Non, vous n'êtes pas sûr. Et c'est la bonne réponse. Décidément, il a réponse à tout. C'est bien dommage. Il tout. Eva Rock, attention, cette question va vous départager.
Oui. Non, départager de la loose, oui.
Oui. Ouais. Apprendre à jouer avec des testicules de lion. Vrai ou faux livre?
Il faut que vous changiez de rire, absolument.
Oui, je vais demander un nouveau rire pour 2020.
Oui, oui. Je dis vrai.
Vous dites vrai livre ? C'est une bonne réponse. Apprendre à jouer avec des testicules de lion, David.
C'est un livre de quoi ?
Ah, ça, c'est un peu moins bien vendu que la délicatesse. Mais bon, le titre original, Learning to Play with a Lion's Testicles. L'auteur Melissa Haynes a été reçue par Ricky Gervais, Jimmy Fallon et Ellen DeGeneres aux États-Unis. C'est un roman sur une cadre supérieure épuisée qui va chercher un sens à sa vie en Afrique du Sud et prendre de gros risques, d'où le titre, inspiré d'un proverbe africain.
Voilà, là, on dirait ma vie.
Qui remporte le quiz ? Il remporte le quiz, il a triomphé des Varocs. Est-ce pour autant quelque chose qu'il mettra en avant sur son CV ? Pas sûr.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
La suite de l'équipe est sauvage avec tous les sujets à redécouvrir, les sujets de nos journalistes compétiteurs passés donc cette semaine pour tenter de captiver les invités de Mathieu Noël. Et c'était Alain Sirou qui était venu nous présenter le sien en présence du chef Olivier Rollinger, mercredi sur Europe 1.
Une expertise hors norme, un style inimitable, surtout sur le plan optique. D'ailleurs, à la question que vous vous posez certainement, où diable Alain Sirou a-t-il dégoté des lunettes pareilles ?
La réponse se trouve dans une lointaine galaxie, à quelques 40 000 années-lumière de notre système solaire.
Et justement Alain, d'après deux nouvelles études, c'est peut-être à plusieurs milliers d'années-lumière de notre système solaire qu'est née la vie. Ou en tout cas, les prémices de la vie.
Oui, absolument. Deux choses. La différence entre astronomie et gastronomie, c'est qu'un G. Et ce G, Olivier, ça peut être le gustatif ou la gravité.
Le G, c'est évidemment plein de choses. Mais...
c'est plein de choses. Et va en mettre un commentaire. Non, merci,
et la seconde chose, c'est qu'on a un problème en astronomie inverse de celui des cuisiniers. C'est que notre plat est déjà prêt. C'est-à-dire que la Terre, on la voit, elle est, entre guillemets, finie. C'est-à-dire que il y a de l'eau, il y a de la vie. Et toute notre problématique à nous, c'est de savoir comment on a fait. Combien il a fallu de farine, à quelle température, qu'est-ce qu'il a fallu ajouter comme ingrédient, etc.
Il a fallu de la farine pour faire la
terre ? Et ben, c'est-à-dire les ingrédients, d'où ça vient, c'est une image.
C'est une image, d'accord, merci Jean-Philippe.
Et vous qui habitez à Cancale, près de la mer, alors je vais vous donner deux informations, deux découvertes récentes. La première, c'est l'origine de l'eau. On ne savait pas d'où venait l'eau des océans. Alors c'est bizarre parce qu'on avait deux hypothèses. La première hypothèse, c'était l'idée que lorsque la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, les composés, en quelque sorte les poussières hydratées, auraient pu dégazer de l'eau en quantité suffisante pour que ça fasse de la vapeur, ça retombe et ça forme les océans. Mais les planétologues n'y croient pas, ça ne marche pas. Et la deuxième hypothèse, c'est que ça pouvait venir des comètes.
Il faut beaucoup de comètes, c'est quoi ?
Les comètes, alors il faut beaucoup de comètes, il faut des millions de comètes.
Des millions.
On sait aujourd'hui qu'il en existe encore des milliards. Et qu'il en est tombé des centaines de millions sur la Terre dans les centaines de millions d'années après sa création, après sa formation. Donc,
il y avait de l'eau dans les comètes, je comprends.
Il y a de l'eau, à peu près 50% de glace dans les comètes, dont de la glace d'eau.
Des glaçons.
Et de récentes études ont
montré...
Plein
de glaçons qui sont arrivés comme ça, pour un apéro géant. C'est la création de la Terre, est en fait un gigantesque apéro.
Et de récentes études ont montré que la composition de l'eau des comètes était en partie équivalente à la composition de l'eau des océans. Donc on a une filiation. Nous savons aujourd'hui que l'essentiel de l'eau des océans vient de l'espace et donc des comètes.
C'est une hypothèse ou c'est une certitude ?
C'est une certitude puisque grâce à des avions qui ont pu, dans la haute atmosphère, regarder les dégazages des comètes lorsqu'elles s'approchent du Soleil, nous avons une indication très précise, ce qu'on appelle une mesure moléculaire en quelque sorte, de la nature et de la quantité exacte hydrogène-oxygène de l'eau.
Bon. On a le droit de poser une question ?
Oui, bien sûr, Olivier.
Comment se fait-il que la Terre soit la seule planète sur lesquelles il y a de l'eau, justement. Parce que les autres planètes reçoivent aussi des comètes,
oui,
me semble-t-il.
Absolument. Alors, parce que celles qui sont plus proches sont trop chaudes. Donc, vous regardez Vénus, c'est 450 degrés, c'est
plus
trop chaud.
Plus proche du Soleil, vous voulez dire ?
Plus proche du Soleil. Et les autres sont plus lointaines. Donc, Mars, il fait moins 50, moins 80 degrés. Et après, vous voyez vraiment...
Le glaçon reste
glaçon. Ça reste de la glace. Et en fait,
elles ne sont pas restées. C'est le hasard de la distance par rapport au Soleil.
C'est la distance. Et deuxième découverte, elle est récente, elle date d'aujourd'hui. C'est une découverte extraordinaire parce qu'elle vient avec des radiotélescopes du Chili et avec une sonde spatiale qu'on connaît bien qui s'appelle Rosetta, qui est passée à côté de la comète Chury. Eh bien, les astronomes ont suivi un ingrédient qui s'appelle un élément chimique qui s'appelle le phosphore. Et le phosphore, c'est une des briques du vivant. Vous le trouvez dans notre ADN, dans nos membranes cellulaires. C'est essentiel à la vie. Eh bien, on a vu autour d'une autre étoile que le Soleil comment elle se formait. Et on a vu qu'elle s'échappait en quelque sorte de la. Elle allait en banlieue de cette étoile. elles ensemençaient, entre guillemets, les comètes autour. Et ces comètes, bah, c'est la même chose que dans notre système solaire. C'est-à-dire que les comètes qui sont tombées sur la Terre ont apporté un de ces éléments, donc le phosphore, on en est sûr aujourd'hui, qui est un ingrédient essentiel à la vie. Alors vous voyez, on a la température, on a l'eau, on a du phosphore, un des ingrédients. Bon, on a le gâteau final. Vous voyez qu'on progresse. Excusez-moi, je retourne au laboratoire.
Mais non, mais je comprends très bien. C'est une très belle recette, mais c'est peut-être plus un soufflet. Pourquoi un soufflet ? Parce qu'on reconnaît aujourd'hui la très grande fragilité qu'est la vie, justement. Mmh. Et justement, et on s'aperçoit que la vie n'est pas une règle, mais une exception. Et c'est ça aussi la grande information. En tous les cas, la jeunesse du monde a pris conscience de cette fragilité.
Bien, écoutez, magnifique chronique d'Alain Sirou. Je retiens que le monde s'est créé comme un apéro avec des glaçons. Ensuite, on a mis des briques. Ça ressemble à une réunion de fin de chantier. Et ça s'est terminé par un soufflet. Bon, vous pouvez nous l'avouer, Alain, vos deux études, elles étaient bidons.
Voilà.
Oh, Alain, pensez aux anguilles.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipé sauvage.
Et on continue à revivre les moments phares de la semaine passée avec Mathieu Noël et ses invités. Lundi, il recevait la comédienne Sandrine Bonner à l'affiche d'un nouveau long métrage qui sortira mercredi. Cas contraire, cas comme kétamine. Vous écoutez l'équipé sauvage, la compilation du week-end.
2 heures en compagnie d'un invité d'honneur qui, sans vouloir nous jeter des fleurs, repart souvent assez content. Sauf évidemment lorsque, comme vendredi, nous sommes en retard. Cadmerade était assez pressé, il avait un train dans la foulée.
Mais c'est qui le patron ici ? Appelez-moi Lagardère. Ah non, c'est plus Lagardère. Toujours Lagardère.
Si, si, on embrasse un factionnaire, c'est toujours Lagardère. Aujourd'hui, on est pile à l'heure pour Sandrine Bonner, à l'affiche le 22 janvier d'un film très marquant, Cas contraire, de Sarah Marx, dont c'est d'ailleurs le premier film. On va revenir sur votre carrière dans un instant, Sandrine Bonner, mais quand on a tourné avec les plus grands réalisateurs, Piala, Chabrol, Sauté, Depardon, Rivette, Téchiné, qu'est-ce qui pousse à accepter de tourner dans un premier film ? Est-ce que c'est prendre un risque ou est-ce que c'est tout simplement normal pour une actrice célèbre de parfois tenter un premier film ?
C'est un peu... Bon, c'est le sujet, hein, en général, ouais. qui m'interpelle, qui me fait accepter ou pas. Et puis, c'est vrai que j'aime bien l'idée de découvrir des jeunes talents, de partager avec eux. Parce que je trouve qu'il y a une fraîcheur, il y a des idées nouvelles et je trouve ça chouette.
Cas contraire s'écrit avec un K majuscule comme kétamine, car il y a un autre thème de société très intéressant dans le film, celui des drogues thérapeutiques, puisque dans le film, votre fils trafique de la kétamine pour s'en sortir. C'est une drogue qu'on trouve dans les rave parties, les discothèques, pour les fêtards, mais c'est aussi un sédatif utilisé en médecine vétérinaire pour les bêtes, et également un produit administré pour les profondes dépressions. À la fin du film, vous avez ce traitement-là. C'est ce paradoxe-là qui est incroyable sur les drogues thérapeutiques. Vous avez une position, vous, politique par rapport à tout ça ? Pourquoi la kétamine est une drogue illégale pour les gens qui font des rave parties et on s'en sert pourtant pour traiter la dépression et apparemment ça marche plutôt bien.
Ah ben ça, je vais bien le croire. Ouais.
Ça veut dire que vous avez testé pour le film, Sandrine Bonner ?
Non, mais j'ai vu sur Internet, enfin je me suis renseignée sur comment c'était, comment on appelle ça ?
Administré.
Ouais. Voilà. Et j'ai trouvé ça assez bluffant dans le sens effrayant. Effrayant parce que ce sont quand même des gros shoots. Ouais. Ça ressemble à de la drogue. Et pour moi, la vraie question, c'est, encore une fois, c'est soigner avec de la drogue, avec de la chimie, comme c'est le cas pour beaucoup, que ce soit pour le handicap mental. C'est vraiment ce qui m'a plu dans le film, en fait. Au-delà de la relation de la mère avec son fils, c'est le sujet de la kétamine qui m'a fait accepter de faire ce film. Parce que pour moi, ce sont de vrais questionnements. Donc je reste pour l'instant dans l'interrogation de ce genre de traitement.
D'ailleurs, comme le film, qui n'est pas du tout manichéen et donneur de leçons. Hein. C'est juste un film qui montre
tout
une
à
réalité.
Fait. Et c'est juste ce que j'ai dit à Sarah Marx et aux producteurs. Je leur ai dit, moi, je ne veux pas cautionner ce traitement. On reste ouvert sur...
Mais d'ailleurs, votre fils réagit très violemment quand il sait que le médecin veut vous administrer de la kétamine.
Parce que pour lui, c'est juste de la drogue.
Et il connaît les effets en tant que drogue. Quoi. Donc,
il a tout à fait raison de réagir comme ça. En plus, lui, il est condamné pour faire ce genre de choses. C'est quand même totalement antinomique. Quoi. Ouais. C'est d'un côté...
Après, tout est question de dosage. C'est tout la question qui peut se poser d'un point de vue de la société.
C'est ça.
Il ne faut pas que ce soit les mêmes doses, évidemment, que ce qu'on prend en soirée.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
Sandrine, vous serez le 22 janvier à l'affiche de Cas contraire, premier film de Sarah Marc. Vous avez cette image, peut-être tout à fait injuste, d'être assez sage. Vous avez pourtant eu une adolescence, j'ai lu, assez rebelle. À 12-14 ans avec votre sœur, c'est vrai que vous partiez à l'aventure en autostop.
Oui.
Sans le dire à vos parents, évidemment, enfin en mentant.
Sans le dire aux parents, avec 10 francs en poche pour 5 nanas.
Ah oui.
Oula.
C'était risqué quand même.
C'était assez risqué.
Ah oui.
Mais on était très, très habiles, c'est-à-dire qu'on... On n'était pas allumeuse, mais on était, comment dire, assez déjà assez attrayante et assez maligne pour mais se faire payer à manger sans coucher.
Ah oui, mais ça peut être un danger d'être attrayante, j'allais vous dire, avec tout ce qu'on entend.
Ouais, alors je sais pas si c'est une question d'époque ou quoi, si le monde d'aujourd'hui est plus dangereux ou si c'est parce qu'on en parle plus, je sais pas.
C'est peut-être parce qu'on
mais
en parle
je vous avoue que si ma petite Adèle qui a 15 ans partait en stop, je serais terrorisée.
Avec 10 francs.
Avec 10 euros, 1,50 €.
Elle irait pas très loin, cela dit. Alors, Sandrine Bonner, la séquence qui vient dans notre émission est aussi risquée, je dirais, qu'une tarte au citron. Ça peut être délicieux, comme ça peut être dégueulasse. Voici notre traditionnel quiz. Sandrine Bonner, en hommage à votre carrière cinématographique qui donne le tournis, on va faire un quiz 7e art. Vous êtes opposée à Eva Rock. Principe simple, je vous donne des phrases, vous me dites si elles sont issues ou non d'un film. Je vous rassure, vous n'avez pas à me donner le titre du film. Sandrine, on commence avec vous. Est-ce qu'on accuse un poteau de remplir un trou ? Il se peut qu'au fond du trou, il y a un terrier de lapin et que le poteau les écrase. Mais est-ce la faute du poteau si c'est juste un trou fait pour lui ? Film ou pas film ?
Oh mon Dieu. Pas film, moi, je dirais.
Pas film ? Vous êtes sûr ?
Non, mais je veux dire pas film.
Vous dites pas film ? Faites-moi plus confiance quand je vous fais des clins d'œil. C'était un film, on l'écoute.
Est-ce qu'on excuse un poteau de remplir un trou ? Il se peut qu'au fond du trou, il y ait un terrier de lapin que le poteau les écrase, mais est-ce la faute du poteau s'il s'ajuste à un trou qui était fait pour lui ?
Vous l'avez reconnu ou pas ?
C'est du Audiard ou pas ? Non.
Alors déjà, c'est un de mes acteurs préférés.
Ah, Jean-Pierre Marielle ?
Qui nous a quittés trop tôt. Avant, il nous a quittés avant Jean-Pierre Marielle, avant Jean Rochefort. Il y avait un autre dans le... un trio. Philippe Noiret, bonne réponse. D'Axel de Tarlé.
Il l'a dit il y a 5 minutes.
Oui, oui.
C'est vrai,
ah
non, je suis un expert en cinéma.
Et c'est dans quel film ?
Ah, c'est dans Coup de Torchon.
Ah, Coup de Torchon, d'accord. Ah oui.
Eva Rock.
Oui.
Hier, dans mon bain, je me suis caressée. C'est pas la première fois, mais là, je suis arrivée en haut. Avoir un orgasme, c'est médical, alors je dis arrivée en haut. Et vous, comment vous dites ? Film ou pas film ?
Non, c'est pas film, ça c'est vous en train de parler de vous dans votre bain. Parce que vous avez dit dans une interview à Télérama que vous preniez toujours des bains. Donc j'imagine que c'est vous.
Parenthèse, ma copine elle m'a dit qu'est-ce que c'est cette connerie ? C'est... Pourquoi tu ne prends pas des bains en écoutant Christophe Ondelat ? Oui, j'ai un peu raconté n'importe quoi dans cette interview. Alors film ou pas film, Eva ?
Non, pas film.
Pas film, vous êtes sûr de vous ?
Ah bah,
oui,
non,
oui, oui,
mais
voilà.
Bon, pas film.
D'accord,
si, si,
très film. Bien, film. Eh oui, film. Regardez même film, et ça prouve que. Bref, écoutez.
Hier soir dans mon bain, je me suis caressée. C'est pas la première fois, mais là, je suis arrivée en haut. Avoir un orgasme, ça fait médical. Alors je dis arrivée en haut. Et vous, comment vous dites ?
Comme c'était quoi, vous quoi connaissez mal la filmographie de Sandrine Bonner, Eva Rock.
Ah bah carrément, c'est
et
dans
oui,
quoi ?
Et oui, c'était Sandrine dans Confidence trop intime. Vous parlez à Fabrice Luchini. Le film était réalisé par Patrice Lecomte. Belle rencontre, Fabrice Luchini ?
Très belle rencontre. Très joli ce film de cul qu'on a fait ensemble. Je fais pas beaucoup de comédies. En revanche, les pornos, j'en ai fait quelques-uns.
Là, Fabrice Luchini qui disait, je crois, en interview, qu'il vous prenait pour quelqu'un d'assez froid. Il avait
d'un
un peu
télo,
peur de vous rencontrer
oui.
D'un télo chiant, limite. Et il vous a rencontré, il vous a dit, oh, en fait, c'est super.
Tout à fait. Et moi, je le trouvais... je me disais, il va me prendre la tête. Il est tellement bavard, tellement... Et c'est rigolo parce que dès le premier jour de tournage... d'ailleurs, c'est lui qui m'a dit « Oh, t'es vachement sympa et tout ça, finalement. »
Finalement. Tout était dans le finalement.
Il m'a dit « Qu'est-ce que tu... Et toi, qu'est-ce que tu penses de moi ?» J'ai dit « Bah écoute, je t'aime bien aussi, finalement.
»
Et on s'est beaucoup, beaucoup apprécié. Je l'aime beaucoup, Fabrice.
Eva Rock.
Oui.
Tu me feras pas visiter le château de Versailles, après tout. C'est comme si on visitait chez des gens qu'on connaît pas. Film ou pas film ?
Ah non, c'est un film, ça.
C'est votre réponse ?
Oui.
Tant mieux, c'était pas ça.
Ah non !
Écoutons.
Tu ne me feras pas visiter le château de Versailles. Après tout, c'est comme si on visitait chez des gens qu'on ne connaît pas.
Rien qu'avec... Elle a le jingle, vous devez reconnaître.
Mais elle a dit film.
J'ai dit film.
C'est pas un film, c'est Palace. C'est un film Palace.
Ah, mais il triche avec.
Mais je ne triche pas.
Ah,
mais
là, ce
sont
dur.
Des. Ah, bah, toutes les phrases sont vraies, c'est pas
d'accord.
Des phrases que j'ai inventées, sinon ça n'a pas de sens. Ah oui, oui, elles sont dans un film ou pas un film. Si c'est pas un extrait d'une série, si c'est de Maggie par exemple, mais c'est pas un extrait de
d'accord.
Film.
C'était mal expliqué.
Oui, c'était mal expliqué. Merci beaucoup.
Et
Mathieu
vous lui trouvez une réclamation au CSA. Sandrine Bonner.
Il est chiant, Mathieu Charrier.
je l'ai déjà dit. Sandrine Bonner, je prie à mort le dieu des fesses qu'il me laisse pas sans gonzesse. Film ou pas film ?
C'est votre réponse? Non. Bonne réponse.
C'est une chanson.
C'est une chanson, ouais.
Comme bah quoi, Mathieu Chéri, quand vous faites fonctionner votre cerveau, ouais. Ça...
Je prie à mort le dieu des fesses qui me laisse pas sans gonzesse.
Je ne sais pas ce que c'est Tristan qui chantait Bonne Humeur ce matin, mais ça sent bon les années 80.
Ah oui, 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 ouais.
Je suis de bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça.
C'était bien ça, j'adorais.
Ça vous date encore mieux que le Carbone 14. Ça. À la surprise générale, Sandrine Bonner remporte un quiz cinéma contre Eva Roche. Tout est décidément possible sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
L'équipe est sauvage, 2 heures de découverte et de bonne humeur. C'est, oui, l'équipe est sauvage, la seconde partie, avec toujours Mathieu Noël et sa bande, Eva Rock, nos journalistes compétiteurs, dont l'objectif, je le rappelle, est d'obtenir un maximum de points auprès des invités de Mathieu Noël pour gagner le titre de chroniqueur du jour. Alors, parmi les invités venus nous voir sur Europe 1 cette semaine, il y avait la comédienne Sandrine Bonner, les écrivains David Fuenquinos et Eric Orsena, le chef cuisinier Olivier Rollinger et, durant l'émission En Public, vendredi dernier, un couple de comédiens, Kadmerad et Sabrina Ouazani, pour nous parler du film Une belle équipe.
Une belle équipe, comédie feel good de ce début d'année, et vous connaissez la célèbre citation « Le rire est au sérieux ce que le sommeil est à la vie, une exigence biologique. »
Oscar Wilde.
Non, Carlos, l'album Tiroli Pimpon. Et puisque nous sommes entre mélomanes, je vous propose d'écouter notre premier concurrent du jour, directeur de Jazz Magazine, qui parfois s'encanaille un peu en écoutant du rock. Quel déglingo. Fred Goetti, Jimmy Page, vient d'avoir 76 ans. Et la question que je sens qu'il ne faut pas que je vous pose, sous peine de me prendre une baigne, c'est: rappelez-nous qui est Jimmy Page.
Jimmy Page, c'est un guitariste anglais, le deuxième plus grand guitariste de l'histoire, après Manitas.
De l'habitat.
J'avais oublié, pardon. J'espère qu'il me pardonnera de lui souhaiter son anniversaire avec un jour de retard. C'était hier qu'il a célébré ses 76 ans.
Comme il écoute assez peu Europe 1, Jimmy, je pense qu'il vous en voudra pas.
Ça, c'est pas sûr. Hein,
c'est jamais.
Avec l'Internet, maintenant.
Bien sûr.
Oui. Alors, il a 76 ans, notre ami Jimmy Page, et c'est le fondateur, comme chacun sait, d'un des plus grands groupes de rock des années 70, Led Zeppelin. Mais ce n'est pas de Led Zeppelin dont je voudrais vous parler aujourd'hui, mais du Jimmy Page des années 63-67, du Jimmy Page musicien de studio au service des autres, exclusivement au service des autres musiciens, et qui a enregistré un nombre incalculable de 45 tours à cette époque avec des chanteuses, des chanteurs et des groupes à la mode dont certains sont complètement oubliés. Alors, premier exemple, janvier 1965, Jimmy Page vient de s'acheter une pédale d'effet électronique tout à fait nouvelle, la Fuzzbox, et il est tout excité de pouvoir l'essayer avec les Manish Boys.
On dirait un mash-up de deux morceaux qui n'ont rien à voir.
Et parce qu'il est très moderne, très en avance, ouais, sur son temps. Alors il y a quelque chose, c'est que vous n'avez peut-être pas reconnu le chanteur de ce groupe, les Manish Boys, il s'appelait David Jones, il avait 18 ans et on a fêté son anniversaire avant-hier, c'est David Bowie.
C'est David Bowie,
lui.
Il s'appelait
même.
David Jones, David Bowie.
Eh oui.
Ah bah j'apprends,
on en apprend
chose
tous les jours. Voilà. Alors, un an plus tôt, en 1964, alors là, Jimmy Page nous claque une intro carrément heavy metal avant l'heure pour une jeune chanteuse française. J'espère que vous allez la reconnaître.
Je n'attends plus personne.
On se gagne. Hardy.
Bravo.
Wow.
Françoise Hardy elle-même.
Monsieur a aussi l'oreille absolue.
La maman de Thomas Dutronc.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais.
Bravo. Bravo.
Hardy, ouais.
Alors, en mars 66, le nouveau poulain de Lucien Maurice, patron d'Europe 1 à cette époque, exige, lui, d'aller à Londres pour enregistrer son tout premier 45 tours avec Jimmy Page et John Paul Jones, d'ailleurs, qui allait devenir le bassiste de Led Zeppelin. Je pense que vous connaissez cette intro.
Ah oui, quand même.
Eh bien, c'est Jimmy Page.
C'est lui aussi.
À la 12 cordes.
C'est une poupée.
Voilà. Alors,
Michel Palmaref, on n'a pas dit.
Oui, voilà, on l'aura reconnu quand même, Eva.
On
a beau être des quiches.
Elle a raison,
non,
c'est
mais
tellement
des fois,
évident
on
que
on sait,
Michel Palmaref, qui était le poulain de Lucien Maurice, ancien directeur de cette station. Alors, une autre pépite, une dernière pour la route, toujours avec Jimmy Page, hein, qui est déterminé à cette époque-là à casser la baraque. Alors, ça tombait bien, puisque la chanson s'appelle « À tout casser, l'amour à tout casser, ah. Waouh !»
L'amour à tout casser, waouh !
C'est Jimmy Page qui joue ?
Eh oui,
derrière,
monsieur.
À la vache.
Avec,
Johnny Hallyday.
On pourrait presque ne pas le nommer non plus, finalement.
Oui.
Johnny Hallyday. Alors, tout ça pour vous dire que si Jimmy Page n'avait pas passé ses nuits et ses jours dans les studios londoniens dans les années 60, eh bien l'impact et le succès quasi immédiat de Led Zeppelin n'auraient certainement pas aussi été aussi forts. Pardon. Grand guitariste, grand compositeur et surtout grand architecte du son. Bon anniversaire, monsieur Jimmy Page.
Bon anniversaire, Jimmy Page. Et Cadmerade, vous n'êtes pas que Banitas de l'Habitas.
On a la transition.
Vous êtes un véritable musicien. D'ailleurs, vous allez bientôt remonter sur scène. Vous êtes en rodage, paraît-il. De quoi s'agit-il ?
Je rôde. Faut que j'en parle. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit.
C'est vraiment en rodage. C'est vraiment le début du rodage.
C'est un vieux rêve, mais voilà. J'aime la comédie, j'aime faire rire, mais j'aime chanter, j'aime jouer de la musique. Et donc, je vais mixer tout ça, en fait. J'ai monté un groupe. Enfin, le spectacle s'appelle Cad on Stage. Oui, je sais.
C'est un peu mégalo.
À fond. Non, mais comme ça, éventuellement, si on lit sur la fiche CAD en stage, on pourrait croire que je suis en stage. Enfin,
c'est vrai,
il y a déjà une vanne, en fait.
Il y a déjà une vanne.
Sans faire exprès, il y a une vanne.
Spectacle musical.
Ma mère, elle parle pas l'anglais, elle va dire en stage, par exemple.
Ma mère aussi. Ouais.
Voilà, par exemple. Donc, j'ai retrouvé les musiciens que j'avais pendant les Césars. J'avais monté un groupe de musiciens et je les ai gardés, les neuf. Donc, il y avait beaucoup de musiciens sur scène. Et en fait, on va passer entre des reprises de chansons que j'adore. Peut-être de Led Zepp, d'ailleurs, il y aura peut-être.
Ou de Deep Purple.
Je suis pas sûr. Oui, de Deep Purple, sûrement. Et puis tout ça, on va dire, avec un peu d'histoire. J'ose pas dire des sketchs parce que c'est pas le mot.
Il y a quand même Mohamed Hamidi qui va travailler avec vous sur ça. Le réalisateur de
Nuit avec Mohamed Hamidi. Donc, forcément, ce sont des sketchs, mais j'aime pas le mot. C'est pas un stand-up, mais c'est une conversation avec le public, avec des belles chansons et des très bons musiciens.
Et si le public.
Et ça va jouer sa mère, je vous le dis, parce que ça va jouer.
C'est la base. On connaît votre niveau musical, CAD.
C'est très solide musicalement. Les autres trucs, je ne sais pas encore. Et c'est ça que je vais roder surtout.
Et pour donner envie à nos auditeurs d'y aller, un avant-goût.
Ça, c'est sympa. Très sympa.
Non, mais petit clin d'œil musical, vous apparaissez, Cadmerade, dans un clip de Ibrahim Malouf, Happy Face. Et s'avère que c'est Ibrahim Malouf qui fait la musique de votre film, La Belle Équipe.
Mais tout est lié, vous avez vu, tout est lié.
C'est le grand karma du cinéma.
Et Ibrahim Malouf est venu, à mon premier rodage, notamment. Il est venu jouer sur une chanson de David Lee Roth, Just Gigolo, parce que c'est la version de David Lee Roth. Et c'est Ibrahim qui faisait la trompette à ce moment-là, avec mes cuivres. Non, ça le fait quand même.
C'est assez classe.
Donc je rôde. Je dis pas où encore, si je peux le dire ou pas.
Si, vous pouvez le dire.
Non, mais je fais deux dates, là, fin janvier, au backstage, à Montrouge. 12 euros. Ouais, je le dis quand même, parce que. Non, ça fait 12 balles. Je suis obligé de faire une petite billetterie, parce que, bon, je vais peut-être vendre 2-3 t-shirts, voilà, des mugs. On va péter les plombs, là.
Pour arrondir ça de moi.
Alors, c'est pas très grand, donc si à un moment donné, vous rentrez pas, m'en voulez pas.
Mais évidemment.
De toute façon, là, ça passe pas sur la radio, c'est sûr.
On vous en voudra pas.
Le backstage à Montrouge, il y a un parking. On m'a dit, c'est important de dire qu'il y a un parking.
Toutes les infos, bien sûr.
Toutes les infos.
C'est 12 balles.
Sur le site cadonstage.fr. Cad on stage.
Ou en stage,
comme vous voulez.
16h, 18h sur Europe 1.
L'équipée sauvage.
Avec Mathieu Noël, entouré de sa grande complice Eva Rock et de nos chroniqueurs, la compétition, se poursuit maintenant avec le sujet d'Anne Le Gall. C'était mardi sur Europe 1, en présence de l'auteur à succès David Fuenquinos, dont les deux nouvelles pièces vont être jouées prochainement à Paris, 10 ans après pour la première et Ami pour la seconde.
Anne Le Gall, vous avez un truc à dire à David avant de démarrer, histoire de le mettre dans des dispositions favorables ?
Bisous, bisous !
Super ! Alors c'est à vous. Anne, vous nous parlez des espèces disparues qui sont malheureusement de plus en plus nombreuses.
Voilà, je vais un petit peu casser l'ambiance là, mais ça nous aide à garder un peu la tête froide. Je vais vous parler du premier animal qui rejoint le catalogue des espèces disparues en 2020. C'est lui, je vous le montre sur europe1.fr. Donc c'est le plus gros poisson d'eau douce du monde, il peut mesurer jusqu'à 7 mètres. C'est l'espadon chinois ou le poisson spatule en raison de la forme de sa tête. Voilà,
espadons d'eau douce. Enfin, il y avait des espadons d'eau douce.
Et donc il a un rostre en fait, une tête très allongée en forme d'épée. Et c'est la première espèce disparue selon une étude publiée dans Science of Total Environment.
Vous avez réussi à le dire et rien que pour ça, vous méritez un point.
Il a disparu et pourtant il vivait sur Terre depuis plus de 200 millions d'années. Depuis au moins 200 millions d'années. Il vivait en Chine, dans le fleuve Yangtze, qui est le troisième fleuve le plus grand du monde. Il a connu les dinosaures. Il a côtoyé les monstres marins, les reptiles marins sans se faire croquer. Il a survécu aux différentes extinctions de masse. Il a survécu aux périodes glaciaires. Mais il s'est éteint à cause de l'activité humaine. Et notamment à cause de la surpêche et de la construction des barrages. Barrages qui ont été construits notamment à partir des années 80 et barrages qui empêchaient ce poisson de remonter pour se reproduire et de redescendre pour se nourrir. Donc il ne se reproduisait plus depuis 1993 et donc il a disparu. Et
comment peut-on être sûr, Anne, car moi vous me connaissez, je suis résolument optimiste. Oui, comment peut-on être sûr qu'il n'y en a pas un petit,
oui,
un petit espadon qui se cache sous un rocher?
Alors on n'est pas sûr qu'il n'y a pas un petit qui se cache derrière un rocher. En fait, la dernière fois qu'on a vu cette espèce vivante, c'était en 2003. Et quand on se base sur des modèles de mathématiques, sur des modèles statistiques basés sur la taille des différentes populations au fil des ans, l'espérance de vie, le cycle de reproduction, eh bien, les chercheurs concluent que désormais cette espèce est éteinte. C'est très triste, estime l'un des auteurs de l'étude. C'est le premier des grands poissons d'eau douce qui s'éteint et il n'y a aucune chance de le voir se rétablir.
Et est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces qui s'éteignent comme ça chaque année ?
Alors, c'est assez impressionnant. Selon la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, il y a entre 500 000 et 1 million d'espèces qui sont aujourd'hui menacées sur Terre. Sur un total, je vous rappelle, de 9 millions au moins. On n'a pas tout encore répertorié, mais on estime qu'il y a 9 millions d'espèces sur Terre. Et donc, ce sont essentiellement les transformations de l'environnement par l'homme qui sont responsables de cette pression sur la biodiversité. C'est pour dire l'urgence qu'il y a à se préoccuper d'un plus juste équilibre entre la nature et l'homme.
David Fuenquinos, dans vos livres, vous dépeignez magnifiquement l'âme humaine, les relations humaines. Est-ce que vous vous intéresserez un jour, dans un prochain roman, par exemple, aux animaux? Je ne sais pas, je pense à Sylvain Tesson qui fait des bouquins là-dessus, La Panthère des Neiges. Est-ce que c'est
non,
quelque chose qui vous intéresse?
Pas, je ne suis pas très fauniflore.
Vous
non,
êtes
non, je suis plutôt relations humaines et bâtiments.
Mais, non, c'est ça.
Mais par contre, je trouve ça très très fort, quoi, ce que vous racontez, c'est affligeant, quoi. Surtout l'idée de se dire que c'est un poisson qui a connu les dinosaures, qui a connu toutes les époques de l'humanité,
et
pratiquement.
Et que nous,
il a survécu 200 millions d'années et pas survécu à l'homme.
C'est terrible.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
Et oui, 2 heures pour apprendre et se détendre avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock et un invité d'honneur. Toujours mercredi, on accueillait Olivier Rollinger.
C'est un des chefs français les plus célèbres. Il publie un livre sous forme de manifeste pour nous inciter à manger mieux. Il est vrai que les temps changent, que la planète souffre et qu'on ne peut plus consommer comme avant.
Où sont les poulards? J'ai faim. Où sont les fèves? Les pâtés de serre? Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Un porcelet? Quelques cygnes blancs bien poivrés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit!
Mangeons moins, mais mangeons mieux. Bonjour Olivier Rollinger.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes un de ces grands cuisiniers triplement étoilés au Michelin qui un jour ont rendu leurs étoiles. Aujourd'hui, vous militez pour une révolution délicieuse, titre du livre que vous publiez chez Fayard. Si vous deviez résumer votre nouveau combat en quelques mots pour présenter l'idée générale à nos auditeurs.
C'est tout simplement de reprendre sa souveraineté alimentaire, en quelque sorte une forme de liberté et de plaisir à bien manger et à faire plaisir à l'autre.
C'est donc l'immense chef Olivier Rollinger qui nous accompagne cet après-midi à l'occasion de la sortie de son livre « Pour une révolution délicieuse » chez Fayard. Plus qu'un livre d'ailleurs, un manifeste qui nous invite à changer notre manière de consommer pour sauver la santé de la planète, mais aussi d'abord notre santé à nous, Olivier Rollinger. C'est ça qui est en jeu en fait aussi.
Les trois grands enjeux de demain, c'est quel air allons-nous avoir pour respirer, quelle eau allons-nous avoir pour nous hydrater, et enfin, quelle alimentation. Et pour une alimentation, il faut un garde-manger. Et le garde-manger, il se trouve que c'est la nature et la planète. Et cette planète, elle a été terriblement abîmée. Et en tant que cuisinier, c'est-à-dire que... Mais un cuisinier, je dis bien pas chef, mais cuisinier, parce que d'ailleurs, j'aime pas beaucoup le terme de chef, mais cuisinier, c'est nourrir. Nourrir l'autre. C'est prolonger donc la vie de l'autre. Et là, on s'aperçoit que toute cette alimentation de l'agroalimentaire nous a amené à des dérives qui a entraîné la première, qui est la pandémie d'obésité. Et derrière cette pandémie d'obésité, bien évidemment, il y a toutes les maladies collatérales. Et donc, et on doit reprendre. Mais avant tout, c'est surtout le plaisir qu'il faut reprendre.
Oui,
avant
bien, même, bien la santé.
Mais je crois que les deux sont absolument liés. C'est absolument... Et donc, comment peut-on imaginer se faire plaisir en mangeant si on sait qu'on s'empoisonne à petit feu?
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
On continue de réinventer notre alimentation avec notre invité d'honneur, le cuisinier Olivier Rollinger, grand amoureux des épices, comme Eva, sauf qu'elle, elle ne sait pas doser.
Je fais cette merde ! Ça débouche la chiotte !
Et vous, vous aimez les épices ? On est allé vous poser la question dans la rue, une question qui ne nous ramènera pas le Pulitzer. On est allé vous la poser quand même. En plus, il faisait froid.
Mon épice préférée, je dirais le cumin. Bah, le cumin, c'est très bon avec les carottes, cumin. Je mange du piment à tous les repas pratiquement. Et puis dès que je peux, je rajoute du cumin.
J'aime bien les épices à tagine. C'est des mélanges qui sont tout faits, qui sont super bons. Moi, j'en mets avec tout. Et des fois, je me dis que c'est pas une bonne idée.
Du curcuma, du paprika, du ras el hanout si je fais un petit couscous.
Larissa, ça déchire. Non, littéralement. Vous devenez tout rouge, vous en pouvez plus, vous avez plus envie de manger, voilà. Puis après, vous avez la diarrhée.
Ras el hanout, ça s'appelle, c'est jaune.
Sherba, c'est la soupe fric. Avec le fric, pas l'argent, hein. Le fric, c'est le blé, quoi.
Le blé cassé. Le blé cassé.
Voilà. J'aime beaucoup la cuisine et j'aime bien les émissions de cuisine. Alors faites beaucoup d'émissions de cuisine et je serai contente.
Olivier Rollinger, les épices, c'est votre passion. Il y a d'ailleurs un chapitre de livre qui s'appelle « Tu t'ouvriras au monde ». Les épices, c'est quoi? C'est le métissage pour vous?
Les épices, mais il faut bien comprendre que depuis la nuit des temps, enfin en tous les cas depuis la Haute Égypte, toutes les communautés ont souhaité intégrer dans leur cuisine quelque chose justement qui ne poussait pas dans leur territoire, dans leur cercle. Et alors il y a eu des thèses en fait, pourquoi mettre des épices dans la cuisine? Alors il y a une dimension spirituelle, parce que c'est la seule manière de rentrer en relation avec l'au-delà, c'est le parfum. Donc les épices. Mmh. La deuxième raison, c'est une question de santé, parce que c'est une question des principes actifs. Et il a fallu, simplement depuis 20 ans, qu'on reconnaît, en tout cas que la science reconnaît les vertus des épices. Mais au-delà, c'est toujours inviter à sa table l'autre, l'étranger, et de justement, par rapport au mouvement locavore, c'est assez intéressant, parce que c'est de ne pas dire il n'y a que les choses qui poussent chez moi qui sont bonnes, mais au contraire, je suis persuadé que dans une autre culture, une autre civilisation, il y a aussi quelque chose de bien. Et consommer des épices, c'est comprendre l'autre, déjà l'aimer, et c'est pas du tout perdre son identité, c'est enrichir sa propre identité de l'identité de l'autre.
Un des nombreux conseils du livre d'Olivier Rollinger pour une révolution délicieuse. Vous tentez parfois, maladroitement comme moi, de faire la cuisine pour vos proches, mais comme moi, ces soirs-là, en voyant ce que vous mijotez, vos proches, sans cœur, s'exclament:
oh là là, je vais peut-être pas bouffer à la maison alors.
Salaud de proche.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Comment le sport inspire-t-il les écrivains? Le sport est-il poétique? Le monsieur livre d'Europe 1, Nicolas Carreau, répond oui. C'était vendredi lors de l'émission en public avec Mathieu Noël, entouré toujours d'Eva Rock et de nos journalistes en compétition. Mathieu Noël qui recevait le duo d'acteurs Kad Merad et Sabrina Ouazani à l'occasion de la sortie du film Une belle équipe.
Icône sexy pour Télérama, qui lui a déjà distribué en tout 9 T. D'autres avancent en revanche qu'il pourrait s'agir d'un imposteur type Rocancourt qui, en lieu et place des 7 romans qu'il prétend lire chaque semaine, se serait en fait arrêté à Oui Oui à la neige avant d'entrer dans la carrière d'escroc. Sa manière d'esquiver la question piège que je lui ai posée mercredi me ferait plutôt pencher pour cette deuxième hypothèse. Écoutez-moi ce filou.
Et puis tout a été publié effectivement en 2010, in extenso, officiellement.
J'ai une petite question, on va voir si vous êtes vraiment spécialiste littéraire. Mémoire d'outre-tombe de Chateaubriand, c'est sorti combien de temps après sa mort?
Par contre, j'ai l'histoire de Kafka.
Nicolas Carreau,
l'audio montage.
Quel roi de l'entour, il n'y a aucun montage là-dedans, j'ai juste mis de la musique derrière. Ce soir, alors qu'on parle d'un film sur le foot, vous avez choisi d'évoquer les liens entre sport et littérature.
Mais oui, il y en a beaucoup. Moi, je ne suis pas particulièrement fan de sport, mais comme je vous le disais, mon roman préféré...
Ça se voit d'ailleurs.
C'est vrai, moi, je suis affûté quand même. Mais bon.
Tu n'es pas affûté, tu es maigre, ça n'a rien à voir.
Je regardais, je me demandais si vous étiez de profil ou de face en fait.
Moi, bon, je vous renvoie pas le compliment.
Non, c'est facile.
C'est trop facile.
Je vous laisse travailler, pardon.
Mon roman préféré, c'est Courir de Jean Echenoz. C'est la biographie romancée d'Emil Zatopek, qui était très maigre aussi, puisque c'était un athlète tchèque, plus grand champion de course de fond des années 40-50, recordman du monde du 10 000 mètres. A priori, la course à pied, on risque de s'ennuyer. Bah, pas du tout avec Jean Echenoz. Il sait décrire l'effort, la ténacité, les vertus du sport comme personne. Et bizarrement, le marathon devient très très émouvant. Dans un autre style, mais sur le même sujet, il y a le célèbre livre d'Haruki Murakami, Autoportrait de l'auteur en coureur de fond. En fait, c'est son expérience personnelle. Murakami écrivait beaucoup, il était assis toute la journée et donc il a pris du poids. Et il a décidé de se mettre au footing juste pour maigrir un petit peu. Justement.
Et il en a fait un best-seller.
C'était très très dur pour lui. Mais oui, mais il en a fait un best-seller. Surtout. Pourquoi? Parce qu'il a vécu des sensations. Il s'essoufflait, il souffrait énormément. Finalement, il est devenu complètement accro à ce sport. Il a voulu comprendre pourquoi et analyser tout ça. Et donc, il se met en scène et il raconte comment il n'essaie pas de battre les autres, mais se vaincre lui-même. c'est assez beau ça, c'est très romanesque. Il compare le travail de l'écrivain à celui du sportif. Comment développer la concentration et la persévérance, qui sont deux qualités indispensables dans les deux domaines. Alors pourquoi ça fonctionne bien, sport et littérature? Parce qu'il y a déjà ça, le dépassement de soi. Au fond, c'est le sujet de pratiquement de tous les romans. On trouve un héros au début du livre qui n'est pas du tout le même qu'à la fin du livre, parce que justement, il s'est dépassé, il est allé au fil des épreuves au-delà de lui-même, un peu comme dans le sport. C'est une affaire de sensations aussi. Pour un écrivain, c'est parfait. Il y a des torrents de sensations physiques, mais aussi mentales, à décrire, à travailler, à explorer. La douleur, l'envie de tout arrêter, puis la victoire ou la défaite d'ailleurs, c'est tout aussi romanesque. Et puis, les romans se sont souvent emparés d'un sujet grave, mais efficace, encore du point de vue de l'intrigue, c'est la guerre. Je n'ai pas fait de statistiques précises, mais je dirais que 50% des écrits de l'histoire littéraire ont pour décor la guerre ou les guerres. Le sport, finalement, c'est la guerre d'aujourd'hui, sans mort, mais la guerre quand même, c'est heureusement ce qui a remplacé la guerre, les élans nationaux, il y a le patriotisme, l'affrontement simplement, mais aussi les petites lâchetés, la loyauté ou la déloyauté, on retrouve tout ça sur un terrain de foot par exemple. Et donc, il y en a plein des écrivains qui s'y sont mis, il y a Jean Giraudoux qui a écrit beaucoup sur le sport, qui a même fait du sport de haut niveau, il y a Antoine Blondin aussi, l'auteur d'Un Saint-Jean-Hiver, il était journaliste sportif, il a beaucoup écrit sur le sujet, mais pas des analyses ou des rapports, le sport avec l'œil de l'écrivain, du romancier, de la littérature. Éric Fotorino, bien sûr, ancien patron du Monde quand même, spécialiste du vélo, et il a publié de nombreux romans sur la question. Et puis Pierre-Louis Basse, ancien d'Europe 1, oui. Légende d'Europe 1 même, et romancier, et son roman le plus célèbre, c'est Séville 82. Oui. Ah, voilà. Tout un livre sur un match, mais le match du siècle, France-Allemagne.
Avec Baptiston,
dont vous parlez dans le film en plus.
Vous revenez sur cette scène dans le film. Vous savez, ça vous travaille encore.
Bah, oui, la scène où on voit Platini qui accompagne le brancard.
C'est vrai, il lui tient la main.
Tenant la main.
C'est un bon moment, ça.
Un moment. Vous êtes sportifs tous les deux, pour de bon, dans la vie. Kat, vous avez fait du rugby.
Moins en moins, oui, mais bon.
Il paraît que vous n'étiez pas très fort en plaquage.
Non, mais j'avais un très bon coup de pied, comme on dit. J'étais un bon botteur. On m'appelait la botte impériale.
Monsieur.
Un jour, un journaliste dans un petit journal de province, mais on est
le journal local.
Sur Angers, soit le Républicain, il s'appelait ce journal, qui existe toujours, il me semble, et marqué la botte impériale. Alors, j'ai pensé longtemps que c'était un restaurant chinois, moi. Eh bien, c'était comme ça qu'on m'a appelé. Parce que j'avais un bon coup de pied. Non, mais j'étais un bon botteur.
Et vous, Sabrina?
Incroyable.
Et moi, effectivement, c'est fou, on s'est rendu compte avec Kat que j'avais aussi fait du rugby comme lui.
Incroyable.
Et effectivement, un petit peu de foot plus jeune, mais...
Mais vous, quelque chose me dit à votre tempérament que vous étiez du genre à plaquer.
Exactement, mais j'adorais ça, je faisais ça pour ça.
Pam. Merci en tout cas, Nicolas Caro, pour cette belle chronique. C'est toujours un bonheur de vous entendre parler littérature. Au fait, Kat, votre écrivain préféré?
Herbert Léonard.
Oh, moi aussi, c'est dingue. Les grands esprits, putain, connexion.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Avec, bien sûr, Mathieu Noël, on se balade au milieu de cette équipée sauvage pour revivre les moments phares de la semaine passée. Et lundi, l'actrice Sandrine Bonnaire était venue nous parler du film, du long métrage Cas contraire, dans lequel elle joue et qui va sortir ce mercredi en salle. Elle a d'ailleurs pris quelques notes pour la recette d'Olivier Pouls.
Vous écoutez toujours l'équipée sauvage, l'émission qui lustre vos neurones, bichonne vos zygomatiques et trouve encore le temps d'exciter vos papilles. Or, souvent, en matière de gastronomie, le mieux est l'ennemi du bien. Surtout après les fêtes, on a parfois passé des heures en cuisine, tout ça pour que Tati Marcel lâche un glacial. Ça manque de sel. Début janvier, on n'a pas forcément envie d'un plat trop complexe. C'est pourquoi, quand pour la recette du jour, Olivier Pouls m'a proposé...
C'est un émincé de chevreuil pris dans le cuisseau, convenablement bardé, doré à feu ardent, rôti à feu moyen, accompagné d'une marinade préalablement passée.
Relevé
au genièvre, au porto et à la sauce poivrade.
Tout
servi dans une purée de châtaigne râpée de gelée de myrte.
Oui, alors je lui ai dit non, Olivier, plus sain. C'est là qu'il a eu l'idée de l'omelette. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Alors, le concept de Délices in Extremis, chaque jour une recette simple et pas chère, là on réunit vraiment les deux.
Oui, l'omelette, vous allez me dire, il s'est vraiment pas cassé le cul pour un lundi. Mais...
Ah, casser les œufs, moi je... Enfin, c'est pas grave.
Mais voilà, j'aurais dit,
j'allais dire, mais il a cassé les œufs.
Ah,
vous m'avez mangé ma vanne.
Pardon,
qu'est-ce que vous voulez.
Et Dieu sait que c'était une vanne assez recherchée et,
je ne l'avais
et de qualité.
Alors, vous savez, une omelette, ça paraît tellement banal, ça paraît tellement simple, et pourtant c'est probablement un geste technique en cuisine qui est très très difficile. Pour preuve, lors du dernier concours des meilleurs ouvriers de France, la présélection se faisait sur une omelette, vous imaginez quand même. Et Paul Bocuse, dit-on, recrutait ses cuisiniers en leur faisant faire une omelette. Il leur demandait de faire une omelette devant lui si elle était ratée dehors. Oh. Et si elle était réussie, il pouvait intégrer la brigade. C'est que c'est plus technique qu'il n'y paraît une omelette. Il ne suffit pas simplement de casser les œufs et de les mettre dans une poêle chaude. Il y a quelques petits gestes que je vais vous expliquer. Puis surtout, après, je vais vous donner une idée d'omelette vraiment bluffante. Alors, pour l'omelette de base, tout simplement, des œufs extra frais bio, bien sûr, qu'on va bien battre. On va les rendre légèrement mousseux. On va les assaisonner. Du beurre dans une poêle anti-adhésive. Il ne faut pas chauffer trop le beurre. Donc, dès qu'il est fondu, on va mettre les œufs dedans. Et puis, il y a un petit geste avec une spatule en bois qui va consister à donner une espèce de petit mouvement de manière à ramener régulièrement l'œuf qui est à l'extérieur de la poêle vers le milieu de manière à ce qu'il y ait une cuisson homogène et que vous n'ayez pas des bords qui soient secs et trop cuits et un milieu qui ne l'est pas. Et donc, quand vous allez voir que cette omelette accroche, on va relever légèrement la poêle, elle va glisser vers le fond et hop, il y a un petit tour pour la rouler.
Ah,
et on la sert roulée.
Mais comment on fait? Ah oui, non, d'accord.
Ça me paraît, c'est ce coup du poignet qui assez, me paraît compliqué.
Alors, oui. Entre-temps, on a pu évidemment la garnir si on le souhaite. Mais là, je vais vous donner une petite idée d'omelette qui va prendre juste 2 minutes de plus et qui vraiment est bluffante. C'est que vos œufs, vous allez prendre, vous allez séparer les blancs des jaunes et vous allez monter vos blancs en neige.
Ah,
ça va donner une omelette beaucoup plus aérienne, une omelette soufflée. Et donc, vous les montez en neige. Mais vous ne savez pas faire, vous rigolez ou quoi? Vous avez un fouet? Vous avez des blancs?
J'ai un fouet, mais il ne sert pas à ça.
Vous avez des bras.
Il ne sert pas à la cuisine.
Mais enfin.
Si vous avez des bras, c'est parti. Vous montez vos blancs, vous réincorporez les jaunes. Et puis alors, même technique, une poêle bien chaude, pas trop quand même, de la matière grasse. Vous mettez cette omelette soufflée, vous tournez légèrement, vous couvrez juste 3 minutes le temps de faire prendre de la chaleur au cœur de l'omelette. Et puis vous garnissez, vous roulez. Et vous avez une omelette qui est épaisse, qui est soufflée, qui est hyper spectaculaire.
Alors ça, c'est une omelette hyper spectaculaire soufflée, c'est-à-dire tout ce que je déteste, puisque j'aime que les omelettes soient bien baveuses.
Il faut évidemment qu'elles restent baveuses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le dessus soit trop cuit. Il faut que le dessus reste moelleux et reste baveux. Et puis pour vous, Mathieu, on va râper un peu de truffe, parce que c'est la saison,
je sais que... Vous avez
une petite faiblesse de ce côté-là.
On n'a pas tous vos moyens, Olivier Pouls. Merci quand même pour cette belle recette de l'omelette spectaculaire. Bye Pouls.
Heures, 18h sur Europe 1, l'équipé sauvage.
Il est 17h46 et on reste bien sûr avec Mathieu Noël et sa complice Eva Rock pour les derniers moments de cette équipé sauvage qui, je le rappelle, est le rendez-vous bonne humeur de vos après-midi sur Europe 1. Et à chaque après-midi, il y a un invité d'honneur. Jeudi, c'était Mathieu Noël accueillait l'écrivain Eric Orsenna pour son roman Brisé en nous, la mer gelée, paru chez Gallimard, un nouveau livre consacré à l'amour.
Que soient les époques, l'amour semble toujours fonctionner selon la cruelle équation « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ».
Dites-moi au moins quand je vous reverrai.
Bientôt, peut-être.
Oh, pariez grand, vous savez.
Pariez tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Émouvant échange entre Eva et son amant dans les ruelles de Montmartre aux alentours de 1946. Et si nous avons décidé de parler d'amour cet après-midi, c'est que nous recevons un grand écrivain qui lui consacre son dernier roman. Un roman d'amour tous les 10 ans, c'est le rythme qu'il s'était fixé. Bonjour Eric Orsenna.
Mais bonjour Europe.
Alors, bonjour Europe. Je peste souvent, on en parlait en antenne à l'instant, je peste souvent contre la fadeur des titres de romans ou des films ces dernières années, qui je trouve souvent manque d'originalité ou de poésie. Là, brisé en nous la mer gelée, pam. Ça, c'est un titre de roman. On n'a pas ouvert le livre qu'on l'aime déjà.
Ben oui, mais je l'ai piqué.
Ne le dites pas.
Mais si,
ne
je
le
suis.
Dites pas.
Europe, c'est le lieu de la franchise.
C'est vrai.
Donc je suis dans la franchise. Donc je l'ai piqué à Franz Kafka.
C'est pas mal.
Qui disait
référence.
Qu'est-ce qu'un livre? Un livre doit être une hache pour briser en nous la mer gelée. Et depuis très longtemps, je vivais avec cette phrase incroyable et je me disais quelle histoire va mériter d'être sous ce titre. Et voilà. Et donc j'ai trouvé l'histoire qui, à mon sens, mérite d'être sous ce titre. Admirable. Et au fond, c'est nous. Nous avons tous un peu ou une grande de mer gelée en nous. Donc il faut la faire fondre. Et le réchauffement climatique n'a pas que du mauvais.
C'est donc Eric Orsenna qui nous accompagne cet après-midi. Alors je vous précise d'emblée, mon cher Eric, que vu que vous êtes membre de l'Académie française, par mesure de sécurité sémantique, Eva ne sera pas habilitée à vous interroger aujourd'hui. Une écoute rapide de ces dernières questions
non,
vous permettra
arrêtez.
De comprendre pourquoi.
Vous qui aimiez la musique et vous imaginez rocker, vous auriez aimé être quel musicien?
Voilà, alors peut-être certains regretteront qu'on ne sache pas si vous avez zut aimé être musicien ou si vous rêviez plutôt d'avoir tuté tes ornithologues, mais par sécurité, Eric Orsenna, on a décidé qu'Eva Rock ne vous poserait pas de questions. Brisez en nous la mer gelée. On le disait, vous l'aviez promis, un roman d'amour tous les 10 ans. Mais vous avez sauté celui des 60 ans, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui s'est passé là?
Il y avait une sorte de vide.
vous ne ressentiez plus d'amour ou vous viviez au contraire des moments compliqués?
Non, à la fois les deux. Vous savez, c'est pas contradictoire. On peut avoir du vide et des moments compliqués. Et donc, et puis il fallait qu'un personnage vienne et puis que advienne. Et qu'il fallait saluer ce personnage.
Alors là, vous nous racontez l'histoire d'amour entre Gabriel, spécialiste des cours d'eau, rien à voir avec un écrivain qui aurait écrit un bouquin sur l'eau il y a quelques années, et Suzanne, spécialiste des chauves-souris. Un homme et une femme d'un certain âge, il la demande en mariage au deuxième rendez-vous, il se marie, mais il divorce 4 ans plus tard. Une histoire pas tout à fait inventée, on peut le dire quand même, Éric Orsenna. Non, il y a beaucoup de vous dans ce roman.
Il y a beaucoup de moi dans ce roman, il y a beaucoup de vrai. Et ce qui m'amuse, c'est que quand vous avez une histoire vraie, elle accueille, elle aimante des tas d'autres histoires qui ne sont pas fausses, mais qui ne vous sont pas arrivées. Donc vous les incarnez vous-même, puisque l'histoire vraie, attirant les autres, c'est comme si on était en bateau, Finistère, et donc c'est un équipage. Et donc on dit, au fond, voilà, qu'est-ce que ça raconte de l'amour?
Eva, vous avez lu ce roman, vous a-t-il réconcilié avec l'amour? Non, mais ça va bien.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, vous écoutez l'équipe est sauvage, ou plutôt aujourd'hui, l'équipe est romantique. Puisque nous lisons Les yeux embués de larmes, le dernier roman d'Éric Orsenna, notre invité, Briser en nous la mer gelée. Alors, beaucoup de femmes dans votre vie ont dû avoir envie de briser la glace avec vous, Éric.
Ah ouais?
Encore aujourd'hui, visiblement. Est-ce qu'un jour, on est guéri de l'amour? Moi, j'espérais ça. Visiblement, d'après notre discussion depuis le début de l'émission, c'est pas le cas. On ne guérit jamais de l'amour. Il n'y a pas un jour. Parce que c'est quand même pas enviable comme situation. On ne s'appartient plus quand on est amoureux.
Eh bien, c'est une bonne nouvelle quand on s'ennuie avec soi-même. Vous savez, c'est l'histoire qui m'a tellement frappé et qui est arrivée à un certain nombre de gens, mais notamment à mon père. Mon père était un beau mec. C'est-à-dire, il y a eu un vrai déclin génétique depuis, et c'était un beau mec. Et il avait 86 ans, c'était 2 ans avant sa mort, et j'étais avec lui à une terrasse de café. Et une femme passe, vous savez, comme une passante, comme on dit dans Baudelaire, sous le vent, balançant le feston et l'ourlet, elle passe. Il lui sourit. Elle répond à son sourire. Et j'entends mon fou de père dire « Ah, si j'avais encore 80 ans
!» Génial.
Donc, il y a peut-être un truc génétique là-dedans.
Alors, tout à l'heure, Éric Orsenna, on connaît votre érudition, vous nous parliez, vous citiez Proust. Vous avez commencé par Tintin, plus modestement.
Mais pas plus modestement, c'est Tintin qui m'a donné envie, clairement, de voir la planète. Puisque nous, on habitait Paris, au coin du Boulevard Pasteur et la Haute-Vaugirard, et puis on allait en Bretagne, c'est là où ma passion absolue pour la Bretagne est née.
Ah, j'ai cru pour Anne Le Gall, d'accord, mais pour la Bretagne.
Écoutez, on parlera de ça un petit peu plus tard, parce que je suis entendu.
Ah oui, c'est vrai, vous avez raison.
Et je suis marié.
Oui.
Ce qui n'est pas contradictoire. On peut être marié et entendu. Et donc voilà. Et donc voilà.
On parlait de Tintin. Elle, ça serait plutôt la Castafiore. Face à vous, Éric Orsenna, celle qu'en interne on appelle The Brain. Chaque jour, Eva Rock met au défi l'invité de la base sur un questionnaire de culture générale. Voici notre célèbre quiz. Vous êtes prête, Eva?
Non.
Parfait. Éric Orsenna, c'est pas tous les jours que nous recevons dans l'émission un membre de l'Académie française. Par contre, c'est tous les jours qu'à mes côtés, nous avons la présence d'une personne qui a déclaré avoir fait plus d'études que Simone de Beauvoir. C'est pourquoi nous allons à présent faire un duel sur la langue française. Eva Rock, oui. Que désigne l'adjectif nullipare?
Nulle
un,
part.
Une femme qui n'a jamais accouché. 2, une action qui n'a jamais existé, ni même été pensée. Ou 3, une personne qui s'est mise nue, mais pas assez longtemps pour qu'on puisse se rincer l'œil.
Est-ce que vous avez le droit de me...
De vous donner la réponse? Non, vous devez choisir parmi ces 3 propositions.
De m'épeler le mot ou pas?
Nullipare. Nullipare.
J'aurais dit la 2.
Vous auriez dit une action qui n'a jamais existé. Pas du tout. C'est une femme qui n'a jamais accouché, ou en zoologie, une femelle qui n'a pas encore porté. Vous coucherez moins bête.
Ce qui est un mot absolument scandaleux.
Scandaleux, oui, qui devrait être banni.
Mais attends, il va être... Alors, le problème, c'est qu'on est un peu lent à l'académie, puisqu'on est à la lettre V. Donc, le temps qu'on revienne à N, en dépit de mon immortalité, il y aura au moins 5 personnes qui se sont succédées sur mon fauteuil. Mais dès maintenant, je vais faire une... Voilà, parce qu'il y a les gilets jaunes, et il y aura les habits verts et qui vont prendre. Vraiment, c'est une honte. Nulipare. Mais ça veut dire que si on n'a pas, si on n'a pas fait d'enfant, enfin fabriqué d'enfant, on est nul.
Ouais.
Et non avenu. C'est, mais c'est des mots. Il y a des mots qui sont terribles parce qu'il y a des mots qui vous assignent à résidence, vous condamnent pour toujours.
Bah heureusement, ce
c'est
mot-là,
une horreur.
Nulipare, on ne l'entend pas souvent.
Mais j'ai droit à un point.
Mais vous n'avez droit à rien du tout.
Non, zéro point.
Éric Orsenna.
Oui.
Qu'est-ce qu'une fontaine ubérale ? 1. Une fontaine qui n'a jamais cessé de fonctionner. 2. Une fontaine à laquelle on ne peut boire que si on a un compte Uber. Ou 3. Une fontaine où l'eau coule des seins de sculptures féminines.
Alors là, franchement...
Ah, je vous colle !
Mais j'aimerais que vous me la présentiez surtout, cette fontaine.
Donc vous avez quelque part donné la réponse. Puisque c'est une fontaine dont les sculptures féminines voient de l'eau jaillir de la pointe des seins. Uber, en latin, mamelle. Vous y penserez quand vous commanderez sur Uber Eats. Eva Rock, Éric Orsenna, d'où vient le mot baragouiné ? 1. Du fait que quand on a bu, on ne comprend plus ce qu'on dit. 2. Des Bretons, dont le patois était incompréhensible, faut dire ce qui est. Ou 3, d'un établissement réservé aux femmes, ce qui était incompréhensible pour les hommes.
Alors attendez, d'abord je m'insurge, ce n'est pas un patois, c'est une langue. Après, continuez votre émission, s'il vous plaît.
Ah ben moi,
continuez
je
votre émission,
deux.
S'il vous plaît.
Vous non, dites
attends,
la réponse 2,
oui.
Et Eric, vous dites aussi la réponse 2.
Bah attendez, évidemment.
Oui, parce que vous connaissez la réponse, en fait. Contrairement à Eva qui dit comme vous, parce que bref. Évidemment. Et oui, ça vient du breton.
La belle langue bretonne. Nous ne sommes pas nombreux, pas tout nombreux, en fait. Nous ne sommes que deux à l'Académie française à aimer les langues, à respecter les langues régionales. Il y a Barbara Cassin, qui vient d'être élue, qui a fait un discours absolument magnifique en disant que les langues, c'est la diversité, c'est les langues, c'est pas une seule langue. Et le français n'a pas le monopole pour exprimer le monde.
Alors le breton et baragouiné.
Moi, je défends Diwan.
Vous êtes capable de nous dire baragouiné, d'où ça vient, ce que ça veut dire?
Le vin et le vin, bien sûr.
Le pain et le vin. Et le vin.
Et le vin.
Bara,
bien sûr.
Le pain
bara,
et vin, gouiné.
Voilà.
Ça a donné baragouiné.
Baragouiné.
J'aimais déjà ce mot, et voilà. Plus.
Vous l'aimez encore plus. Ouais. Effectivement. Ouais. Éric Orsenna, un amélanchier. C'est l'ancêtre de la brosse à chiottes, un très bel arbuste d'Amérique du Nord ou une personne qui n'a jamais voté pour Jean-Luc Mélenchon.
Eh bien, c'est le numéro 2. C'est un très, très bel, petit arbuste qui donne, en plein milieu de l'hiver, des petites fleurs jaunes qui donnent une sorte d'annonce du printemps.
Et bien, comme quoi, l'Académie française, c'est pas bidon, hein. Ouais. Eva Rock.
Ah bah non, je vais pas jouer,
attention,
là.
Attention, parce que là, on monte en gamme.
Ah bon,
on monte en poésie.
Oui.
On atteint les cimes de la poésie française. Eva Rock, une branlette. Ce n'est pas qu'une pratique solitaire bien connue, c'est aussi une technique de pêche très en mouvement, un ancien ustensile de cuisine pour sécher la salade.
J'ai droit qu'à 2 possibilités.
Oui, bah c'est mieux en fait. Moins vous avez de possibilités, plus c'est plus de chances de gagner.
Eh bien, je penserais bien à la salade.
Vous penserez... Eh bien, c'est une mauvaise réponse, Eva. C'est une technique de pêche,
évidemment,
où l'on donne un mouvement continuel
c'était
à l'amorce de la ligne, qui n'est pas effectivement, sans rappeler, une autre pratique. Qui remporte ce quiz ? Oh, Éric Orsenna, qui triomphe des Varocs dans un questionnaire portant sur le français. Si on me l'aurait dit, j'aurais pas cru.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage.
Et on retrouvera Mathieu Noël, Éva Rock et toute l'équipe dès demain, 16h sur Europe 1. Bon week-end. À l'écoute de nos programmes, Wanny Bouchard est prête à vous informer jusqu'à 20h. Excellente fin de journée avec nous.